le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. La RDC est l'un des pays africains les plus touchés par les violences sexuelles basées sur le genre depuis plus de deux décennies à la suite des affres de groupes armés. Déclaration du président Félix Tshisekedi Tshilombo à la conférence des chefs d'État d'Afrique sur la masculinité positive. Un forum organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Vous suivrez dans cette édition un extrait du message du chef de l'État de la RDC. Recensement en RD Congo. Le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP s'engage à accompagner le gouvernement congolais dans tout le processus de cette opération programmée dans l'exercice budgétaire du pays de 2022. Le tout nouveau représentant de cette agence des Nations Unies en RDC l'a annoncé au cours de sa première rencontre avec la presse à Kinshasa. Colère du coordonnateur humanitaire en RD Congo, David Maklaklankar, a condamné fermement les attaques de 19 et 21 novembre dernier contre les populations civiles dans le territoire de Djougou, en Ituri. Des attaques qui ont considérablement réduit dans la contrée l'accès humanitaire. Voilà tout pour les titres. Le développement de ce magazine, c'est tout de suite.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. La Journée internationale contre les violences basées sur le genre, c'est le 25 novembre. Cette année en RDC, l'événement a servi à la tenue à Kinshasa de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive. En plus du président Félix Tshisekedi, six autres chefs d'État d'Afrique ont pris part à six assises. Il s'agit du Sénégalais Macky Sall, du Ghanéen Nana Akufo-Addo, du Togolais Faure Gnassingbé, du Zambien Akayinde Hichilema, du Rwandais Paul Kagame et du Congolais d'en face Denis Sassou Nguesso. Dans son discours, Félix Tshisekedi, qui est également président de l'Union africaine, a notamment fustigé le fait que les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre dans les conflits armés. Écoutons le président de la RDC dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Malgré ces efforts consentis par tous, la courbe de la violence faite aux femmes et aux filles reste quasi linéaire. Pire encore, dans les zones à conflit, la violence envers les femmes et les filles est utilisée comme arme de guerre et comme moyen d'expression la plus brutale, systémique, sournoise, voire perverse, pour déstructurer les communautés. En effet, force est de constater que les politiques et programmes mis en place à ce jour n'ont pas permis de transformer les inégalités structurelles et institutionnelles qui conduisent à la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette situation exige des actions d'envergure, innovantes et accélérées, pour inciter tous les acteurs de la société à participer activement aux efforts visant à éradiquer ce désastre. Les hommes occupant des postes à responsabilité ont un rôle particulièrement important à jouer pour influencer d'autres hommes à se mettre d'accord sur les stratégies efficaces et efficientes pour prévenir et mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles en Afrique.
À noter que la présidente honoraire du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, a également participé à ce sommet en qualité notamment de marraine du forum. La conférence a débouché sur l'adoption d'une déclaration dite « Déclaration de l'Union africaine pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ». Restons encore dans le même registre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes et aux filles à Uvira au Sud-Kivu. Le personnel féminin du contingent pakistanais de la MONUSCO a célébré l'événement au camp des PAKBAT 3 à Kanvivira, conjointement avec la section des affaires civiles de la mission. Une vingtaine de femmes venues des quartiers de Kanvivira, Kasinga et Ruginga s'étaient jointes à la fête. Fiston Goma.
L'objectif était de sensibiliser les femmes à la prévention de toutes les formes de violences, où qu'elles soient pratiquées, et de lancer ainsi officiellement les débuts de la campagne 16 jours d'activisme. Les femmes casques bleus pakistanaises de la MONUSCO ont présenté différentes façons dont les femmes peuvent faire la différence. C'est par exemple écouter et croire la survivante enseigner à la prochaine génération et apprendre d'elle, faire appel aux réponses et services adaptés, comprendre les consentements, apprendre les signes d'abus et comment aider les autres femmes à les faire, comment initier une conversation, défendre la culture du viol, être solidaire, se tenir mutuellement responsable et enfin connaître l'incident dans son environnement. Un agent de liaison des affaires civiles de la MONUSCO a sensibilisé sur certains mécanismes d'adaptation locaux. C'est comme par exemple éviter les endroits sombres, éviter les zones reculées sauf lorsque vous êtes nombreuses, éviter les zones isolées, éviter la consommation d'alcool dans les zones suspectes et en fin de soirée, assister aux activités agricoles en groupe d'individus. Les participants ont promis de toujours signaler tous les types d'incidents de violence aux acteurs de la protection et à la MONUSCO. Douvira Fistongo Mamayaba, la Radio Okapi.
Autre actualité à retenir, le Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, disposé à apporter son appui technique et financier à l'opération de recensement annoncée par le gouvernement. Le tout nouveau représentant résident de cette agence en République démocratique du Congo, Eugène Kony, l'a affirmé le 19 novembre 2021 au cours d'une rencontre avec la presse à Kinshasa. Le patron du FNUAP RDC a aussi parlé des objectifs que s'est fixé cette agence au niveau mondial d'ici à 2030. Plus de détails du message du Dr Eugène Kony dans ce papier rendu par Blaise Oshindani Kambala.
Une vingtaine d'hommes et de femmes des médias avaient pris part à la rencontre organisée par le bureau de FNUAP RDC le 19 novembre à Kinshasa. Concernant les recensements annoncés par les autorités congolaises, le nouveau représentant résident de cette agence en RDC, Dr Eugène Kony, a salué cette volonté du gouvernement congolais de doter les pays des données démographiques sans lesquelles il ne peut y avoir une bonne planification du développement. Et dans ce processus, Eugène Kony a promis l'accompagnement aussi bien technique que financier de son agence. Si l'assistance technique était déjà opérationnelle, comme il l'a fait savoir, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la Population en RDC a indiqué que pour l'assistance financière, il suffisait seulement que le gouvernement en fasse la demande. Par ailleurs, le haut fonctionnaire des Nations Unies a partagé avec la presse un certain nombre d'informations statistiques sur la population congolaise, notamment le taux de mortalité maternelle qui est de 4 femmes par heure du fait des complications de la grossesse ou d'un accouchement. Dans le cadre des ODD, Objectifs de développement durable, le FNUAP s'est fixé 3 objectifs d'ici 2030, a souligné le Dr Kony. Zéro décès maternel, zéro besoin non satisfait en matière de la planification familiale, zéro violence basée sur le genre.
Toujours dans les faits d'actualité, une forte délégation de la MONUSCO a effectué mardi 23 novembre dernier une visite à l'école élite, un établissement scolaire de Kanluka, un quartier populeux et enclavé de la partie centre-ouest de la ville de Kinshasa dans la commune de Kintambo. Cette visite a été organisée en partenariat avec l'ONG Vision Congo en marge de la déclaration de la journée Nelson Mandela. D'autres détails dans ce reportage de Pamela Lubaki, rendu par Blaise Shindani Kambala.
Lors du lancement officiel des activités relatives à la journée Nelson Mandela, le 18 novembre 2021 à Romeo Golf à Kinshasa, cette école a été représentée à la manifestation. Dans leur message, le groupe d'élèves ayant pris la parole avait lancé un appel pathétique aux autorités et à leurs partenaires d'aider leur école à se doter des infrastructures viables, notamment des installations sanitaires propres. Une collecte de fonds a même été organisée auprès des participants. C'est sans doute à la suite de l'appel des enfants de l'élite que la mission des Nations Unies en RDC a mobilisé certaines de ses unités pour visiter cet établissement scolaire. La division de la communication stratégique et de l'information publique, Radio Capi, UNPOL ou la police de la MONUSCO, notamment les unités de la police intégrée des contingents égyptiens et bangladais, toutes sections se sont rendues pour toucher du doigt la situation de cette école qui fonctionne dans un millier déshérité de Kinshasa. Il faudrait noter qu'une délégation de l'ambassade d'Afrique du Sud en RDC et une unité de génie civil de EFA RDC ont également pris part à cette activité. À l'instar des casques bleus et d'autres membres de la délégation de la MONUSCO, tous ont procédé à l'assainissement de l'école. Ils ont aussi repeint symboliquement les murs de l'établissement et planté quelques arbres. L'ambassade sud-africaine et la police intégrée égyptienne ont également offert des cadeaux aux élèves.
Le coordonnateur humanitaire en RDC a condamné avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées le 19 et 21 novembre dernier contre les populations civiles, notamment du village de Drodro en Ituri. Dans un communiqué daté du 23 novembre 2021, David Maklaklanka regrette que l'accès humanitaire se soit réduit de manière considérable ces dernières semaines dans les territoires de Djougou du fait des attaques contre les civils. Plus d'éclairage sur ce communiqué avec Alain Rung.
Selon ce communiqué, entre vendredi 19 et dimanche 21 novembre dernier, le site de personnes déplacées de Tché dans le territoire de Djougou en Ituri, abritant près de 3700 personnes, a été attaqué. Le village de Drodro et le site de personnes déplacées installées dans l'enceinte de l'église ont été également pris pour cible, causant la fuite de plus de 16 000 personnes vers la localité voisine de Roé. En l'espace de 48 heures, le site de personnes déplacées de Roé, qui comptait initialement plus de 20 000 personnes et ses alentours, ont accueilli près de 50 000 nouveaux arrivants. L'accès humanitaire s'est réduit de manière considérable ces dernières semaines dans le territoire de Djougou, entraînant la suspension des mouvements de 17 organisations humanitaires et affectant l'accès de près de 320 000 personnes à une aide vitale et urgente à Drodro, Fataki, Nizi, Lita, Bambou et Mangala, souligne le communiqué. La population de la province de l'Ituri est victime de l'augmentation des violences. Il est impératif que les acteurs humanitaires puissent apporter une assistance sans entrave dans le respect des principes humanitaires, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. J'en appelle aux autorités congolaises afin qu'elles redoublent d'efforts pour assurer la protection des populations civiles, a conclu le coordinateur humanitaire.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le MAC-UN revient sur l'entretien du chargé de plaidoyer au programme Observation citoyenne du Centre Carter, Thierry Zink, un entretien qu'il avait accordé en début de semaine à Radio Kapi à partir de Mbujima au Kasaï oriental en marge de la formation sur la logistique des réformes électorales en RDC organisée dans la campagne diamantifère. C'était avec Esther Dalafina.
Bonjour, Monsieur Thierry Zeng. Vous avez organisé des journées de restitution pour les réformes électorales en RDC. Pourquoi c'est à l'intention des députés provinciaux?
Permettez que je revienne un peu dans l'histoire, ce projet. En fait, c'est un projet qui a été financé par le gouvernement allemand. Et comme nous sommes un programme d'observation citoyenne, le gouvernement allemand a financé toutes ces questions de plaidoyer. Et surtout des plaidoyers pour des réformes clés, des réformes électorales. Parce que nous sommes un programme qui travaille dans le domaine des élections. On s'est rendu compte qu'il y a une difficulté réelle dans la rédaction des lois. Et souvent les experts apparaissent quand il faut interpréter cette loi qui a été mal écrite ou avec des erreurs. Et pour ça, nous, on est aller en amont, se dit non, on attaque déjà maintenant, qu'on essaie de faire voir à ceux-là qui rédigent, les légistes et les législateurs, qu'on le fasse voir avec quel art il faut rédiger une loi pour aboutir à un résultat. C'est la raison pour laquelle il y a eu des travaux à Kinshasa et au Congo central, où on a eu un expert, le doyen de la faculté de droit, Jean-Louis Essambo, qui nous a formés, qui a formé les députés nationaux, qui a formé les membres de la commission épiscopale justice et paix de la CENCO, qui a formé les membres du centre Carter. Alors, il y a eu ce désir d'étendre ces informations et cette formation au niveau des provinces, parce que les députés provinciaux, eux aussi, prennent certaines décisions, certains actes, des édits au niveau de la province, dans la gestion de la province. Mais il y a souvent des lacunes, des petits problèmes de forme et de fond quand ils écrivent ces textes-là. La raison pour laquelle on est venu les renforcer une capacité pour qu'ils soient capables réellement de produire un travail de qualité.
En entendant parler de la logistique, qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
La logistique, s'il faut la définir, c'est cette science de rédaction de loi. Il ne faut pas attendre seulement l'écriture de ABC de la loi, non. C'est la forme et le fond de la loi qui est rédigé, qui est compris et qui est vulgarisé. Vous comprendrez que ce n'est pas le fait seulement d'écrire les titres, les chapitres d'une loi que cela doit être considéré comme étant une logistique. Non. Il y a un style qu'il faut suivre. Il faut une certaine clarté et ça évite certaines confusions. Je peux donner un petit exemple. Quand, par exemple, un arrêté provincial souligne et dit « vu la Constitution dit quoi par rapport à l'arrêté que vous voulez prendre ?» Il faut énoncer ce que dit la Constitution. Vu la nécessité. Il y a nécessité de faire quoi? Vu l'urgence. Quelle urgence? Il faut énoncer cette urgence. C'est là qu'on vient apprendre à nos amis ici que chaque fois que vous devez faire référence à une loi ou à un document juridique, énoncez la disposition qui vous donne, vous, l'autorisation de poser l'acte que vous voulez poser.
Ces députés provinciaux siègent depuis bientôt plus de 2 ans.
Exact.
Et pourquoi cette formation intervient maintenant? Parce qu'il fallait venir un peu plus tôt.
Un peu plus tôt exactement, mais le financement est arrivé aussi à ce moment-ci, parce que nous n'avions pas nous-mêmes notre propre argent pour le faire. Et il y a aussi eu la situation de Covid qui a tout mis à terre. Et heureusement qu'on a dû relancer les choses. On aurait pu venir un peu plus tôt, mais comprenez que les bailleurs ont leurs caprices, mais aussi la situation de Covid qui nous a bloqués. Mais sinon, on a l'intention de couvrir tout le pays. On a choisi 5 premières provinces et la province du Kasaï oriental a été parmi les 5 pionniers qu'on a choisis. Et de sorte qu'à partir d'eux, on peut voir comment étendre cette formation aux autres provinces.
Pourquoi cette formation se focalise plus sur les réformes électorales?
Parce qu'on est dans une période que nous appelons la période préélectorale. Une période de forte tension. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu autour de la loi organique sur le fonctionnement de la CENI. Et là, il y a la loi électorale qui s'annonce, qu'on devra voter. Il y a plusieurs lois qui concernent le processus électoral. Alors, il ne faut pas attendre la dernière minute pour commencer à en parler. Nous, on anticipe pour que déjà, on sensibilise la population au niveau le plus bas, au niveau local, qui comprennent quels sont les débats qui se mènent au niveau des instances supérieures, par exemple à Kinshasa. Eux aussi, ils ont un mot à dire. Les députés nationaux sont issus de nos territoires ici. Ils peuvent dire un mot à leurs propres députés pour que ces députés essaient d'endosser toutes ces questions et les pose au niveau de l'hémicycle, là où les questions clés de réforme se posent.
Ne pensez-vous pas que ces difficultés que vous avez constatées au niveau de la rédaction des textes sont aussi constatées au niveau d'autres textes qui ne cadrent pas avec les élections?
Et Dieu merci, vous venez de souligner cela, c'est effectivement cela, mais nous, pour le moment, nous commençons par cet aspect électoral. Ça va permettre qu'ils découvrent les techniques, parce qu'on a dit que la logistique c'est une science, mais aussi un art.
Monsieur Thierry Zeng, merci.
En plus bref, au sud Kivu, 8000 déplacés internes ont regagné la semaine avant Bibogobogo dans les moyens plateaux de Fizi sur environ 12000 qui s'étaient réfugiés à Baraka fuyant les affrontements entre les miliciens Mai Mai et les combattants Turwaneho du 13 au 17 octobre 2021. Ce retour au Berkay a été rendu possible notamment par la présence rassurante des casques bleus pakistanais de la MONUSCO. Enfin, dans Kivu en outre, au Nord Kivu, c'est le bataillon marocain de la MONUSCO qui a organisé cette semaine diverses activités dans de nombreux villages de cette province dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'enfant. Ces activités principalement ciblées les enfants du niveau primaire.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'ambassadeur français Bruno Aubert était cette semaine en tournée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À l'étape de Beni au Nord Kivu, il était mercredi dernier. Il a parlé des efforts de la communauté internationale dans la lutte contre l'étuerie des populations civiles dans cette contrée et à Djougou en Ituri. Le diplomate français avait répondu aux questions de Martial Papi-Moukeba.
Bruno Aubert, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous avez choisi Beni comme point de départ de votre tournée dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu?
Eh bien, étant arrivé à Kinshasa il y a un peu plus d'un mois, j'avais l'intention de me rendre en priorité dans les régions de l'Est, en particulier dans le Kivu et à Beni. Pourquoi Beni? Parce que Beni est en quelque sorte emblématique de tous les problèmes, des souffrances éprouvées par les populations au Congo, les populations de l'Est, et nous voulions manifester notre présence, notre solidarité, notamment à travers certains projet que nous mettons en œuvre ici, notamment le projet de soins de santé primaire que j'ai pu lancer tout à l'heure en présence du maire, des responsables des ONG, des responsables de l'hôpital, mais également faire le point sur les actions qui sont menées ici conjointement par la MONUSCO et la FARDC contre les forces qui menacent la sécurité des populations, principalement les ADF. Et donc ça a été l'occasion d'avoir des échanges, tant avec la MONUSCO qu'avec les forces de sécurité congolaise et c'était très très fructueux, très très positif. En tant que France, nous avons une responsabilité particulière. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité et donc c'est notre devoir de suivre sur le terrain l'évolution de leur mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dont, je le rappelle, l'objectif principal est de protéger les civils. C'est un mandat de protection des civils.
Exactement. Vous avez rencontré les responsables de la MONUSCO, les maires de Beni, les commandants des opérations des FARDC contre les ADF. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces échanges?
Mais il y a un travail très sérieux qui est fait actuellement de coordination entre la MONUSCO, les forces armées de la RDC, les autorités sur place. Moi, je peux pas en dire plus. Il appartient aux autorités congolaises, en liaison avec la MONUSCO, de tirer les enseignements de ce qui est fait sur le terrain et de l'évaluer. Mon rôle à moi consistait à les écouter, à poser des questions et à rappeler notre préoccupation pour les populations civiles. Ce sont les populations civiles qui souffrent et qui continuent à payer un prix fort de cette crise oubliée du monde, mais heureusement pas oubliée de tout le monde, puisqu'il y a la MONUSCO, il y a un mandat et que des pays amis de la RDC et de ses populations, dont la France, tiennent à cœur de suivre de près la situation.
Et comment aujourd'hui la France compte apporter son soutien pour stabiliser Beni et mettre fin à l'activisme des ADF et d'autres groupes armés dans la région?
C'est par un suivi attentif de la situation, c'est par un dialogue avec les autorités et la MONUSCO, et c'est aussi à travers des projets de coopération sur le terrain, comme celui que j'ai déjà mentionné, qui est un projet de soins de santé primaire en proximité avec les populations, permettant un meilleur accès des populations, environ 800 000 personnes, à différents centres de santé primaire, à différents dispensaires, tout ça dans une optique aussi de prévention d'un des maux qui afflige cette région et ses populations, que sont les épidémies. Le suivi de l'action qui est menée pour la sécurité des populations, contre les ADF, mais plus largement la sécurité, c'est pas simplement l'affaire des forces de sécurité, c'est aussi une action sociale, économique, culturelle auprès des populations, c'est aussi un accompagnement politique. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres projets que nous chercherons à mettre en œuvre dans cette région.
Que répondez-vous à ce qui accuse la communauté internationale de l'inaction face aux tueries des civils à Beni et à Djougou, en Ituri?
Moi, je comprends toujours les gens qui, devant le massacre de civils, reprochent l'inaction, parce que c'est vrai que le massacre des civils, c'est un scandale insupportable. La seule réponse qu'on peut apporter, c'est le sérieux avec lequel on lutte contre ces forces négatives, c'est que ces groupes qui se livrent à des exactions innommables contre les civils. La seule réponse à apporter, il faut continuer, nous les partenaires internationaux, les amis de la RDC, à travailler avec les autorités, à travailler avec les forces de sécurité, à travers la MONUSCO. Je rappelle, il y a un accord de la communauté internationale à travers le mandat qui est donné à la MONUSCO. Donc la réponse, elle est là. C'est améliorer la réponse qui est déjà apportée au quotidien. Rien n'est parfait en ce monde. Il faut continuer à améliorer le fonctionnement des choses. Et je crois que c'est ce qui est en cours actuellement.
La société civile, les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent aussi souvent les silences de la justice internationale face à ce qui se passe à Beni et à Ituri.
Le sujet de la justice internationale, effectivement, là aussi, je comprends le sentiment qui anime la société civile, qui anime les gens qui sont en proximité de ceux qui souffrent. Nous avons, nous aussi, en France, cette préoccupation de faire prévaloir la justice, et notre diplomatie est aussi orientée vers cela. Mais c'est un travail de longue haleine. Nous sommes attachés à la lutte contre l'impunité.
Bruno Aubert, merci.
Merci à vous.
Sur Massissi, nous retournons en Nord-Kivu. Sensibilisation des enfants sur leurs droits, l'initiative du centre Uru Knowledge en collaboration avec la MONUSCO. C'était le samedi 20 novembre en marge de la journée des droits de l'enfant et à travers une campagne théâtrale accompagnée des spectacles de danse traditionnelle, de musique et de slam notamment. L'autre objectif de cette campagne, décourager le recrutement des enfants soldats dans les groupes armés. Les détails dans ce démarquage d'Honoré Missingakalala.
Les activités se sont déroulées pendant deux journées, vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021. Le premier jour, le site choisi a été l'entité de Mobambiro, un cadre symbolique qui a servi en même temps de compatir avec la famille qui, quelques jours plus tôt, venait de vivre un drame à la suite de la mort de ses deux enfants de 8 et 4 ans, tués selon les sources par des balles perdues. Le spectacle lui-même a ainsi été dédié à cette famille ainsi qu'à tous les enfants vivant aux alentours du camp militaire de la place. Le jour suivant, c'était au tour de Kirotue, à une quarantaine de kilomètres de Mobambiro, où la campagne s'est poursuivie avec le même spectacle. Cette fois, les leaders communautaires, les chefs des groupements, la police nationale congolaise, les FRDC, des associations des jeunes ainsi que des mouvements citoyens s'y sont joints pour célébrer la Journée internationale des droits de l'enfant. Dans l'ensemble, dans les deux sites, Mobambiro et Kirotie, plus de 800 enfants ont dû être sensibilisés sur leurs droits, y compris celui de ne pas être recrutés dans les groupes armés.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Suivez cette question posée au porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, ainsi que sa réponse.
Qu'est fait exactement à la brigade d'intervention des forces de la MONUSCO ici à la région de Beni? Car la population de la région a l'impression que les casques bleus sont ici pour les touristes ou les loisirs, parce que les attaques multipliées où les ADF arrivent à égorger plus de 60 civils dans les territoires de Beni, et que les casques bleus sont visibles dans les bistrots et les cafétérias ici dans la ville de Beni.
Écoutez, je ne sais pas comment répondre à cette accusation de tourisme. Donc je suis toujours étonné d'entendre ce mot dans la bouche de certains journalistes. Il y a eu effectivement une attaque extrêmement violente, extrêmement sauvage. Et nous allons envoyer une mission d'enquête pour voir ce qui s'est passé, établir les responsabilités et caractériser les faits, faire le bilan. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une attaque, à chaque fois qu'une attaque n'a pas pu être évitée, à chaque fois, nous remettons en cause la manière dont on travaille, nous remettons en cause aussi ce qu'on peut faire de mieux avec l'armée congolaise, et on est constamment en train d'essayer d'améliorer ce qu'on fait, le soutien qu'on amène au FRDC. Il ne faut pas croire que nous avons le cœur sec quand nous lisons les rapports et les barbaries qui continuent d'être perpétrées par des groupes armés qui, encore une fois, sont sous pression et du coup multiplie les atrocités. Nous allons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir l'armée congolaise, pour voir comment on peut encore mieux la soutenir dans la mise en œuvre de l'état de siège. Et à cet égard, je voudrais dire que le rapport qui a été présenté par la commission défense en sécurité sur la mise en œuvre de l'état de siège est à notre sens un document qui contient des recommandations importantes pour nos partenaires congolais, et que ces recommandations méritent l'intérêt des partenaires de la RDC également. En outre, ce rapport reflète des échanges constructifs entre le gouvernement et les parlementaires, et en cela, ça témoigne d'une consolidation démocratique qui nous semble encourageante et à encourager pour déterminer la marche à suivre dans la lutte contre les groupes armés et le processus de stabilisation, parce que, encore une fois, nous avons besoin évidemment de la population, nous avons évidemment besoin de forces armées déterminées et équipées pour remplir cette mission, et nous avons aussi besoin que tous les acteurs politiques, que tous les acteurs communautaires aussi soient engagés pour la paix et pour la réconciliation et contre ceux qui vivent de ces trafics et qui vivent de cette situation et qui cherchent justement à déstabiliser ceux qui essayent de faire quelque chose pour ramener la paix en disséminant à la fois des faux messages et de la calomnie concernant le rôle de la MONUSCO et son engagement à soutenir la population.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Trois dates à retenir pour la semaine qui commence la première semaine de décembre 2021. 1er décembre, journée de lutte contre le sida. 2 décembre, journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Et 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site www.radiocapi.net. Radio Capi en un seul mot. Je suis Babel Pongomassimango. J'étais à la présentation avec le concours technique de Sylvain Baougueré. Cette émission a été produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinakalala. Merci de votre attention. Restez branchés pour la suite des programmes sur la Radio de la Paix.